Alors bonjour à tous et merci d'être venus pour cette conférence. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Pierre Damien Huy pour une conférence à double sens. Donc vous êtes professeur émérite et philosophe, donc professeur en esthétique à l'université Panthéon de Sorbonne, et vous êtes également auteur de nombreux ouvrages dont Art et Industrie, Philosophie du Bauhaus, Contre-temps ou encore Numérique, la tentation du service. Donc merci d'être venu aux Estiennales. On vous a normalement distribué des petits tracts, normalement si c'est bien passé, sur lesquels vous pouvez dessiner ou prendre des notes, et ça sera déposé dans les urnes dans le hall d'entrée, et ça sera récupéré pour faire une édition justement à la fin du, à la fin des Estiennales. Donc merci à tous et bonne conférence.
Merci. Alors, j'ai préparé une conférence comme je fais d'habitude, c'est-à-dire avec un texte, d'où ma position assise, parce qu'il faut que je puisse à la fois regarder où j'en suis dans le texte que j'ai préparé, et si je peux quand même vous regarder un petit peu. Après, s'il y a une discussion, j'aurai pas besoin de l'écran, bien entendu. Alors, la conférence n'est pas à double sens, en tout cas, je veux dire, dans une façon qu'on pourrait avoir d'entendre l'intitulé, hein, je veux faire une conférence à double sens. Non, j'espère faire une conférence à sens relativement simple, en tout cas unidirectionnelle, et à double sens, bien sûr, c'est le titre, c'est-à-dire que je voudrais vous parler d'une part pour... répondre à la demande qui m'a été adressée d'abord par Patrick Pletin, ici présent, puis Jérôme Duhois, parler de quelque chose que j'ai appelé dans un de mes derniers livres « Les objets pervers », et qui sont des objets très contemporains, et d'autre part, de pratiques du langage qui sont également perverses. Et en tout cas, tout ça fonctionnant, au fond, c'est le problème à double sens. Alors, je voudrais, au terme de cette conférence, essayer de vous indiquer l'intérêt d'une notion assez simple à formuler, mais je crois, en fait, assez difficile à définir, qui sera celle, je tâcherai naturellement de vous dire ce que j'entends par là, de regard intérieur. Il s'agira d'une attitude, de définir une attitude, depuis laquelle, je crois, s'engage tout rapport possible à la responsabilité. Donc si vous voulez que je présente ma conférence dans l'autre sens, je peux vous dire que le problème que je vois à ce que j'appelle les objets pervers et les énoncés pervers qui les entourent, c'est qu'ils évacuent toute responsabilité possible. En raison d'une sorte de regard intérieur qui, en l'occurrence, est irresponsable. Alors mon affaire, mon intention est de prendre quelques distances avec un certain nombre de conduites techniques et langagières qui, aujourd'hui tout particulièrement, amoindrissent, flouent, rendent flou, et même, le cas échéant, font disparaître la possibilité d'imputer le faire aussi bien que le dire, la possibilité d'imputer. Pour qu'il y ait de la responsabilité, par exemple, pour que quelqu'un puisse être tenu pour responsable de tel ou tel propos qu'il ou qu'elle aurait tenu, il faut qu'on puisse lui imputer le propos. Le problème de la perversion, telle que je vais essayer de vous y faire réfléchir, c'est qu'elle dissout l'imputabilité et par conséquent la responsabilité. Alors, j'ai prévu une introduction qui sera dans le sujet que m'avait demandé tout particulièrement Patrick, les objets pervers. Et ensuite, je vous proposerai un raisonnement en quatre temps qui visera à analyser une notion en fait centrale. Je vous l'expliquerai aussi bien en linguistique aujourd'hui qu'en marketing, qui est la notion d'acceptabilité. Notion par laquelle passe ce que j'appelle la perversion dans les quelques phrases que je vous ai déjà formulées. Alors, introduction, je la consacre à la duplicité fonctionnelle des objets technologiques contemporains. Je commence apparemment par autre chose, mais en fait, c'est bien de ça que je vais parler. La formulation d'énoncer à double sens est une capacité que les langues, toutes les langues, tolèrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue qui puisse exister, et si j'ose dire, fonctionner, sans qu'il y ait des jeux sémantiques possibles. Donc la formulation d'énoncé à double sens est une capacité des langues, une capacité que toutes les langues tolèrent. Parmi les énoncés à double sens, il y a les énoncés ironiques, qui, en principe, s'entendent de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire que si quelqu'un tient devant vous un propos ironique, vous entendez l'ironie et vous entendez que ce que vous devez entendre, c'est le contraire de ce qui est dit littéralement. Ça, c'est l'ironie. Mais d'une certaine manière, l'ironie, c'est clair. C'est clairement ironique. L'ironie est toujours clairement ironique, sinon, ce n'est pas de l'ironie. Le cynisme, c'est plus ambigu. Quand quelqu'un tient devant vous un propos cynique, c'est pas comme dans l'ironie, vous savez pas, comme on dit, sur quel pied danser, pas toujours. Le pire, du point de vue du destinataire, c'est la perversion. Donc je fais une hiérarchie, si vous voulez, entre, mettons, un ton ou un propos qui serait ironique, un ton ou un propos qui serait cynique, un ton ou un propos qui serait pervers, et je déclare que, de mon point de vue, le pire, c'est le pervers. Je dis que c'est le pire si, du moins, je me place dans une perspective morale, telle que, par exemple, celle que Kant, Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, avait définie dans un tout petit texte absolument extraordinaire, qui s'intitulait « Un prétendu droit de mentir par l'humanité ». Kant soutenait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à soutenir, mais il le soutenait radicalement, qu'on ne peut penser quelque société que ce soit heureuse, dès lors qu'on tolérerait, ne serait-ce qu'un peu, un certain droit de mentir. Donc Kant établissait dans ce texte qu'on ne saurait fonder la vie sociale en faisant le moindre droit au mensonge. Mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un mensonge ? Alors je vous propose de le définir de la façon suivante. J'ai un micro ?
Oui.
Ah, ça c'est très gentil.
Ce sera mieux comme ça.
Alors, ça marche là ? Je parle un peu ? Vous m'entendez ? Oh oui, là, vous m'entendez. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je reprends mon raisonnement. Donc, Kant établissait dans un prétendu droit de mentir par l'humanité qu'on ne saurait fonder la vie sociale en faisant le moindre droit au mensonge. Mais donc, justement, qu'est-ce qu'un mensonge ? Alors, je propose de définir de la façon suivante. C'est une situation d'énonciation où le destinateur, alors vous ne confondez pas le destinateur et le destinataire, hein, le destinataire c'est celui qui reçoit le message, le destinateur c'est celui qui l'envoie. Donc la situation de mensonge, c'est une situation d'énonciation où le destinateur se débrouille d'une manière ou d'une autre pour que le destinataire ne puisse supposer quelque fausseté du côté de son énoncé. Dans les faits, qui réussit à mentir réussit à faire passer pour vrai ce qu'il dit. Cependant, si la possibilité de distinguer le vrai du faux n'est pas alors exercée, hein, si le mensonge, autrement dit, si ça marche, et que le destinataire prend pour vrai ce qui lui est dit, si il ne parvient pas à penser que c'est faux peut-être ce qu'on lui dit, cependant, donc, la possibilité de distinguer le vrai du faux dans le cas du mensonge n'est pas, dans l'absolu, suspendue. Elle l'est dans le cas de l'énoncé pervers. C'est-à-dire qu'un énoncé pervers, c'est un énoncé dont vous ne pouvez pas dire ou prouver qu'il est faux. Dans un tel énoncé, nous ne pouvons dire ni qu'il est vrai, ni qu'il est faux. Il est à double sens, il est flottant dans sa signification. Alors, j'imagine que vous souhaiteriez des exemples, mais je vais vous demander un peu de patience pour ça. Je propose de réfléchir sur les notions simplement. Alors, je change apparemment de sujet. Je me suis souvenu, en préparant cette conférence, des propos d'un artiste qui s'appelait Dan Graham, que vous connaissez peut-être, et qui prétendait que certaines de ses œuvres, au moins, étaient ironiques, en ce que, par exemple, dans tel ou tel de ses pavillons, alors il y a beaucoup d'œuvres de Dan Graham qui s'intitulent Pavillons, alors je ne savais pas trop dans quel lieu, enfin si je savais que je parlais à l'école Estienne, mais je ne savais pas comment on serait équipé. Donc je n'ai pas préparé de diapositive, mais ce n'est pas dur si vous tapez sur un moteur de recherche, sur la barre de recherche d'un moteur aujourd'hui, Dan Graham Pavillon, vous trouverez de multiples exemples en images très, très facilement. Donc c'était des drôles de petites constructions, disons, de caractère architectural, avec des jeux de vitres, voire de miroirs, qui perturbaient, pour qui passait par là, la distinction entre intérieur et extérieur. Mais tout de même, la différence demeurait, et même elle demeurait si bien que justement, on pouvait se poser la question. C'est en quoi c'était des dispositifs ironiques. C'est que ça travaillait la distinction intérieure-extérieure, mais de telle sorte qu'on pouvait se poser la question du travail opéré par la chose sur est-ce que je suis à l'intérieur, est-ce que je suis à l'extérieur. La question se posait. C'était ironique. Je prétends pour ma part qu'il existe maintenant auprès de nous bien autre chose que ce type d'objet perturbant, qui sont des objets pervers, c'est-à-dire des objets dont nous ne savons pas dans quel sens ils fonctionnent. En principe, une fonction, alors je ne sais pas si vous faites beaucoup de mathématiques, mais je vais rester extrêmement simple. Par exemple, une fonction, je peux l'écrire y égale à x plus b. Ça vous rappelle les souvenirs? En principe, ça devrait. Bon. Y égale à x plus b, donc c'est une fonction en mathématiques, c'est-à-dire c'est une sorte de petit dispositif d'écriture ou de calcul, comme vous voudrez, peu importe ici, qui associe un élément, ici dans mon exemple x, à un autre et à un seul autre. Ça c'est important, c'est une fonction parce que ça associe un élément à un autre et à un seul autre, ici y, qui est défini par la formule fonctionnelle à x plus b. Nous avons de coutume de définir de la sorte, au fond, le service des objets que nous pouvons appeler instrumentaux. Un instrument, c'est un objet fonctionnel hein, qui associe un terme x à un résultat y. Ainsi, nous disons que la fonction d'un marteau, x, c'est de planter des clous, y. Celle d'une automobile, c'est de nous transporter, etc., etc. La fonction d'une chaise, c'est de nous permettre de nous asseoir, etc. Mais les choses sont en réalité plus compliquées, car si nous étions plus précis et plus attentifs, nous devrions dire que le marteau et l'automobile, considérés du côté non pas de leur usage, mais de leur fabrication, en aval, pour ainsi dire, de leur fonction d'usage, sont en fait encore ou de ce côté-là aussi, fonctionnellement lié à toute l'industrie sans laquelle il n'existerait pas pour nous servir comme ils nous servent. Le marteau, par conséquent, dont nous disons couramment que la fonction est de planter des clous, est aussi, d'un autre côté, fonction de l'industrie métallurgique pour sa cognée et de l'industrie du bois pour son manche. Quant à l'automobile, si je retrouve, il y a une saute d'humeur de mon écran là. Quant à l'automobile, elle peut être définie comme une fonction terminale de l'industrie jusqu'à présent pétrolière, désormais électrique. Ce que je veux souligner en vous parlant de la sorte, c'est que cette dualité fonctionnelle se manifeste matériellement dans l'allure même des objets concernés. Autrement dit, elle prend forme dans cette allure. Il se voit, chacun peut voir, que le marteau est une pièce fonctionnelle des industries du métal et du bois. Ça se voit. De même, la relation de l'automobile à la production pétrolière s'aperçoit dans le visible de l'objet qu'elle est. Il y a un réservoir, qui jouxte le moteur. L'objet global est doté d'un bouchon sur sa carrosserie qui indique l'entrée du réservoir. Et, par ailleurs, une jauge informe le conducteur de l'état du remplissage, de l'état de remplissage du réservoir en question. Tel n'est pas le cas. Cette visibilité dans l'allure de la deuxième fonction de l'objet, qui en fait est sa fonction première, parce que c'est par là qu'il est fabriqué. En tout cas, la visibilité, la dualité fonctionnelle n'a pas lieu dans le cas des objets technologiques mis au monde ces derniers temps. Ces objets technologiques, si vous voulez, sont complexes au sens propre du mot. Dans complexe, vous entendez le bout du mot qui renvoie aux notions de pli et de repli. Donc je dis que ce sont les objets technologiques des objets complexes au sens propre du mot, c'est-à-dire faits d'un pli et d'un repli de la fonctionnalité en eux. Dans ces objets, une fonction joue sourdement au sein d'une série d'autres qui, elles, sont travaillées de façon à prendre allure. Il y a ici moins dualité fonctionnelle que duplicité fonctionnelle. Et c'est en quoi ces objets sont pervers. Je vais m'intéresser dans cette conférence à ce fait qu'en outre, leur mise en circulation est soutenue par une pratique elle-même perverse du langage. Donc ma thèse consiste à dire au moins la tendance des objets technologiques de dernière génération, c'est qu'ils sont pervers en tant que tels, en tant qu'objets, mais en plus, en outre, leur mise en circulation est soutenue par une pratique perverse elle-même du langage. Ce que vise cette pratique, ce n'est pas à dire, mais à rendre acceptable ce qui est en jeu avec ces objets en retournant, c'est ça, pervers, en retournant le sens de la situation. Alors, à titre d'exemple, les mots « données » et « service » sont aujourd'hui des signifiants pervers, car retournables. Dans le service que me rend un terminal mobile, un smartphone si vous préférez, et qui est réel, le service que me rend le smartphone est réel. Je téléphone avec ça, c'est possible. Donc il me rend un service réel. Ce terminal est bien pratique pour moi. Cet objet est bien pratique pour moi. Il est en effet pratique pour moi et pratiqué par moi. Mais dans le service qu'il me rend, ce que je fais à ce moment-là sert aussi à une fin qui non seulement n'apparaît pas, mais qui en outre est nommée donnée, alors qu'il s'agit en fait d'une prise. Donc ça, c'est pervers. On prend des informations, une industrie prend des informations dans le temps même où vous vous servez de l'objet de manière manifeste, mais cette prise d'information, elle, n'est pas manifeste, et en plus, elle est nommée donnée, alors que c'est une prise, c'est-à-dire il y a quelque chose qui retourne la réalité de l'opération. Il y va d'un déplacement, dans cette affaire, il y va d'un déplacement de la fonction descriptive ou constative du langage, qui, comme je voudrais vous y faire réfléchir à présent, joue d'une propriété des langues, celle précisément de l'acceptabilité. Donc, j'en ai terminé avec mon introduction. J'espère que ça va. Et donc, je vais attaquer, si j'ose dire, la première partie de mon raisonnement, donc que j'ai intitulé « De l'acceptabilité ». Donc, je vais vous parler de cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on sait concernant cette notion ? Qu'est-ce qu'on sait concernant l'acceptabilité ? On sait que c'est un concept qui s'est épanoui dans le milieu de la linguistique. Donc, c'est d'abord un concept de la linguistique et qui, par conséquent, est redevable de l'établissement de cette science. Alors, ce n'est pas difficile de trouver une définition linguistique de l'acceptabilité. Là aussi, c'est un mot extrêmement, disponible dans ces définitions. Si vous utilisez un moteur de recherche et que vous inscrivez dans sa barre « acceptabilité », vous trouverez très vite des définitions, y compris les définitions linguistiques. Celle que je vais vous donner, je la tire tout simplement d'une encyclopédie en ligne bien connue, hein, qui s'appelle Wikipédia, que j'ai vérifié sur d'autres sources un tout petit peu plus, moins fréquentées. Bon. L'acceptabilité est, je cite, alors c'est important, je vous donne la définition parce que je vais commenter cette définition et peut-être un tout petit peu m'en distancier. L'acceptabilité est le caractère d'une phrase acceptable, alors voilà, ça commence mal, hein, puisqu'on définit un mot par le même mot. L'acceptabilité est le caractère d'une phrase acceptable pour la syntaxe et pour le sens. Entre parenthèses, cette phrase acceptable pour la syntaxe et pour le sens est dite correcte et signifiante. Donc c'est une phrase qui est correcte syntaxiquement et par ailleurs signifiante. Toute phrase acceptable doit être correcte syntaxiquement et signifiante. L'acceptabilité d'une phrase exige, c'est toujours la définition, qu'elle ne soit ni agrammaticale ni asémantique. Fin de citation. Le registre évoqué au terme de cette définition, celui de la sémantique, distingue l'acceptabilité de la seule grammaticalité. Alors, qu'est-ce que c'est la grammaticalité ? Citation linguistique de nouveau, la grammaticalité est jugée seulement par la construction, tandis que l'acceptabilité est jugée aussi par le sens. Alors, il me semble que là, le dictionnaire que je consulte en dit trop ou pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire le sens ? Il faut que la phrase soit acceptable par le sens. Mais qu'est-ce que c'est le sens d'une phrase ? Est-ce que ça existe jamais, le sens d'une phrase ? Est-ce qu'une phrase a jamais un seul sens ? C'est justement parce que dans quelque langue que ce soit, le sens n'existe ni ne peut exister de façon univoque que la perversion du et par le langage est possible. Les énoncés pervers sont des énoncés qui, je dirais, s'installent, voire exploitent une possibilité qui est en fait, je vais essayer de vous le montrer, une richesse des langues, qui est précisément que aucun énoncé, aucune structure linguistique n'est assignée à un et un seul sens a priori. Alors il faut sans doute que je précise un peu. L'acceptabilité peut être dite aussi, c'est encore une de ces définitions linguistiques, le caractère d'un énoncé dont la syntaxe et le sens sont conformes au code de la langue. Alors, si cette dernière formulation que je viens de vous lire évoque encore le sens, hein, le caractère d'un énoncé dont la syntaxe et le sens sont conformes au code de la langue, si cette formulation évoque encore le sens, c'est en raison cette fois, comme vous venez de l'entendre, d'une conformité au code. Cette conformité est suffisante pour que l'énoncé soit autorisé linguistiquement. Pour qu'un énoncé soit autorisé linguistiquement, en fait, il suffit qu'il soit conforme au code de la langue. C'est une sorte de bienséance. L'énoncé, tout énoncé qui fait sens, est conforme au code de la langue. Il est bienséant, hein, il sied bien à la langue selon sa structure. Cette sorte de bienséance linguistique n'est pas pour autant valable, me semble-t-il, moralement parlant, et c'est tout le problème dont je voudrais par la suite préciser à votre intention la condition. Admettons, en attendant que j'arrive au bout de mon raisonnement, admettez avec moi, en attendant que j'arrive au bout de mon raisonnement, que la conformation au code linguistique n'exclut pas, en dépit de ce que semblent dire les définitions que je viens de citer, que l'on puisse s'aventurer dans le registre de la signifiance. Alors, je sais que je vous fais cet après-midi un énoncé un peu rude, hein, une conférence un peu rude. Ça va quand même ? Ouais, bon. Bon, on verra bien. Laissez faire l'ambiance. Hein. Il y a un raisonnement qui se construit. C'est peut-être un peu difficile pour vous pour l'instant, mais peut-être que ça va s'améliorer, que je vais réussir à être plus clair. Bon. Mais en attendant, je pose des formules qui vont peut-être résonner dans vos esprits. Et donc celle-ci, alors, j'en suis pas mécontent, même si elle n'est pas facile. Je l'ai cherché un bon bout de temps avant de réussir à l'écrire. L'idée qu'on puisse s'aventurer dans le registre de la signifiance. Voilà. Tout à l'heure, quand j'en serai à ma quatrième partie, j'essaierai de vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un auteur. Par exemple, un écrivain, hein, quelqu'un qui formule quelque chose, un auteur, quelqu'un qui formule quelque chose qui, au fond, n'a jamais été formulé. Donc, c'est singulier. Et pourtant, ça se formule dans une langue qui a un code qui, lui, n'est pas singulier du tout. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à réfléchir. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être un auteur ? Voilà. Eh bien, on peut être un auteur si on est capable de s'aventurer dans le registre de la signifiance, c'est-à-dire de mener une aventure, une petite aventure, dans la langue ou avec le code de la langue. Et c'est bien, moralement parlant, qu'il y ait la possibilité de s'aventurer comme ça dans le code de la langue. Le problème, c'est que cette possibilité d'aventure qui ouvre le champ de la littérature, par exemple, ou même de la pensée, cette possibilité ouvre aussi, du même coup, la possibilité d'une pratique perverse du langage. Et c'est pourquoi je pense que la seule façon de distinguer, c'est une notion que je vous dirai tout à l'heure, que j'ai annoncée en commençant, celle d'attitude ou de regard intérieur. Tout dépendra de l'attitude de l'énonciateur. Donc, je reprends mon raisonnement. La conformation au code linguistique n'exclut pas que l'on puisse s'aventurer dans le registre de la signifiance. Car le sens, de toute façon, n'existe jamais de manière absolue. D'ailleurs, la capacité à produire conformément au code des significations nouvelles fait partie des propriétés des langues vivantes. Quand une langue meurt, quand une langue est morte, c'est qu'on ne peut plus rien y aventurer dans le registre de la signifiance. On ne peut plus y produire d'énoncés dont le sens serait inédit. Le fait de signifier de façon non conventionnelle relève d'une possibilité structurelle de toutes les langues vivantes. Vit une langue où s'acceptent des significations qui n'étaient pas ou peuvent s'accepter des significations qui n'étaient pas déjà acceptées. Qu'une expression surprenne quant à son sens et qu'elle soit dans cette surprise même acceptable peut être compris comme un témoignage de vivacité non contestable en soi. Toutefois, la notion d'acceptabilité est susceptible d'une autre définition que la linguistique. En marketing ou en merchandising, on a une notion qui est le prix d'acceptabilité. Et qu'est-ce que c'est que le prix d'acceptabilité ? C'est le prix réputé par des enquêtes préalables. C'est le prix réputé être accepté par le plus grand nombre de clients potentiels d'un bien ou d'un service donné. On l'appelle aussi, écoutez bien, le prix acceptable, le prix d'acceptabilité, on l'appelle aussi prix psychologique. Et c'est là que les choses vont pouvoir se pervertir, hein, quand on va passer dans le registre du psychologique et pas du linguistique. Donc on appelle le prix d'acceptabilité aussi prix psychologique. Là, c'est pareil, hein, je me suis référé à des traités théoriques de merchandising pour vous dire ce que je vous dis. Je suis en train de lire une citation. On l'appelle aussi prix psychologique. Les entreprises s'efforcent de déterminer la valeur, le prix psychologique, par des études de marché, des sondages, des suivis de panels ou de marchés tests. Un questionnaire est établi et administré pour connaître la façon dont les clients modulent leur prix d'achat en fonction des fonctionnalités et du niveau de qualité relative perçu, pas forcément réel. La plupart des clients potentiels positionnent leur prix d'achat à l'intérieur d'une certaine fourchette, dite zone d'acceptabilité, soit un intervalle compris entre le prix minimum en dessous duquel le client pense que le produit ne peut pas être de bonne qualité, et le prix maximum, qui est le prix au-dessus duquel plus aucun client n'est disposé à acheter le produit. Donc le prix acceptable, c'est un prix qui est déterminé dans une fourchette entre un minimum en deçà duquel on refuserait d'acheter le produit parce qu'on penserait qu'il est de mauvaise qualité, et un maximum au-delà duquel on pense que vraiment c'est trop cher. Voilà. Et donc on va fixer le prix acceptable dans cette zone-là, dans cette fourchette-là. Ça ne veut pas dire que ça correspond au prix réel de l'objet, au coût réel de l'objet. Alors si vous lisez avec attention donc toute la définition que je viens d'évoquer, vous pourrez penser que malgré le propos terminal concernant un prix en dessous duquel le client pense que le produit ne peut pas être de bonne qualité, cette définition ne concerne pas une réelle transaction commerciale entre deux personnes. L'acceptabilité au sens du marketing interdit en quelque manière à la relation marchande les hésitations et les aventures qui pourraient se produire lors d'une rencontre réelle entre un vendeur et un client. Imaginez que... Comment dire ça ? Que la relation commerciale ne soit pas anticipée et que vous vous rendiez sur un marché et que vous, on dirait dans un langage courant, vous négociez le prix avec le vendeur. Et le prix va dépendre d'une rencontre, une sorte de rencontre entre un vendeur et un client. Dans les logiques qui conduisent à la fixation d'un prix acceptable, il s'agit d'épargner l'aventure de cette rencontre-là qui pourrait aboutir à ce que le prix soit variable d'un marché à l'autre, d'une rencontre à une autre. Et on va fixer un prix en fonction d'études préalables qui imaginent ce que pourrait être la fourchette de discussion entre un vendeur et un client, mais qui épargne réellement que cette discussion ait lieu. C'est au cours d'une étude préalable, en amont de toute rencontre, qui du coup n'a pas lieu comme telle, que le prix acceptable d'un produit est déterminé. Mais peut-être pouvez-vous comprendre aussi que se présuppose de cette manière-là, et c'est ce sur quoi je vais insister, que la raison d'un prix n'est pas seulement liée au coût de la production, que la fixation, le seuil du prix n'est pas seulement lié au coût de la production, il est aussi à la crédulité d'une clientèle. La démarche d'enquête préalable vise à étudier la plausibilité d'une vente qui pourrait ensuite se faire réellement. Non, ce que cherche l'étude préalable, c'est à déterminer une valeur elle-même plausible ou crédible. Alors vous savez que dans crédit, je dis au passage, résonne la notion de croyance, de crédulité. Alors ici, à la différence de la situation linguistique, l'acceptabilité ne dépend pas d'une propriété structurelle, elle dépend de ce que j'appellerais une latitude psychique. C'est posé. Ça va toujours ? Ah, les hochements de tête sont plus rares. Alors, je passe quand même au deuxième point, où je voudrais vous parler de la promesse. Vous allez voir, je pense, ces quatre points, ça va finir par faire une petite architecture, normalement. Donc, je laisse de côté ce que je viens de vous dire sur le prix acceptable, l'acceptabilité en linguistique, l'acceptabilité dans le marketing. Et je passe à un autre point, la promesse. Et même pour vous indiquer dans quel sens je vais essayer de définir pour vous la promesse comme étant un énoncé imputable. Bon. Si j'étais à peu près clair... Je viens d'introduire à votre intention une formule, une notion que j'ai nommée latitude psychique. Alors latitude, pas et l'apostrophe, hein. C'est comme longitude et latitude. Hein. La latitude psychique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une variation. Bon. Ce que je viens d'appeler latitude existe aussi dans les situations de dialogue. Évoquer l'acceptabilité du langage qui nous est servi et dont nous nous servons pour parler des situations de la technologie contemporaine, comme je le faisais dans mon introduction, ce n'est pas s'intéresser à la justesse ou à la vérité de ce langage, ce n'est pas lier à un référent, c'est ouvrir du champ à la prévalence d'un autre point de vue d'évaluation. Un énoncé acceptable pourra bien, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas être vrai. Il pourra même, c'est plus compliqué à concevoir, mais non moins possible, être ni vrai ni faux, ou bien vrai et faux en même temps. Ou pour mieux dire peut-être, un énoncé acceptable pourra être un énoncé proférant, ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, une demi-vérité. Voilà. Vous savez ce que c'est une demi-vérité ? C'est quand vous ne dites pas toute la vérité, vous n'en dites qu'une partie. Et la partie que vous dites, elle est vraie. Donc ce n'est pas faux ce que vous dites. Mais comme vous ne dites pas toute la vérité, votre interlocuteur peut comprendre autre chose que toute la vérité. Donc finalement, votre énoncé, il n'est pas vrai, bien qu'il ne puisse pas être montré qu'il n'est pas vrai. Donc c'est un grand art de... Alors, ce qu'il faut dire du mensonge ou de la perversion, hein, que de proférer des demi-vérités. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai un exemple emprunté à la vie amoureuse, amoureuse. Justement, c'est toute la question. En tout cas, à la vie dans laquelle des gens qui sont supposés s'aimer peuvent se mentir les uns aux autres en se disant des demi-vérités, et donc en se disant toujours la vérité quand même. Bon, c'est-à-dire... Bon, vous imaginez, c'est tout. Hein. Voilà. Donc il y a des demi-vérités, c'est-à-dire des énoncés, au fond, qui sont pas tout à fait vrais et cependant pas faux. Il y va là d'une incomplétude où la possibilité de vérifier est suspendue. Ce qui rend prononçable ce genre d'énoncé, les demi-vérités, c'est, je le rappelle, la langue. Parce que ces énoncés sont conformes au code linguistique. Mais ce qui fait qu'on accepte effectivement qu'il y a quelqu'un pour accepter la demi-vérité, qu'il y a un destinataire qui accepte cette demi-vérité, comment expliquer ça sinon par le fait qu'on peut, d'une part, en raison de la structure des langues, jouer sur les mots, Et d'autre part, en raison cette fois de la latitude psychique dont je viens de vous faire remarquer l'existence, organiser un malentendu. C'est-à-dire l'énoncé mensonger et finalement pervers, c'est un énoncé qui va jouer sur une double... qui va associer, si vous voulez, une propriété linguistique et une capacité psychique des êtres humains, et qui va, compte tenu de ces deux possibilités, organiser le malentendu. Alors c'est ça, un énoncé pervers. C'est un énoncé dans lequel est organisé un malentendu en raison de la propriété de la langue d'être ouverte à toutes sortes de signifiances, et en raison, d'autre part, que les êtres humains ont une latitude psychique qui fait qu'ils peuvent recevoir des énoncés à demi-vrais. Alors, je me ferai sans doute mieux comprendre quant aux enjeux de ce que j'essaye de vous dire si je prenais un exemple général, celui de la promesse. Par définition, au moment où je promets, ce que je dis ne peut être vérifié. Je vous promets que je serai à l'heure demain pour ma prochaine conférence. Voilà. Au moment où je vous promets quelque chose, cet énoncé, par définition, ne peut pas être vérifié. Et j'attends, moi qui promets, de vous auquel je m'adresse, que vous me croyez. Toute personne qui engage une promesse profère un énoncé qui ne peut pas être vérifié dans l'instant et qui appelle de ceux à qui cet énoncé s'adresse une croyance. En gage de cette croyance, il y a un retour, en gage de cette croyance attendue, moi qui suis en train de vous dire « je promets », en gage de cette croyance que j'attends de vous, vous avez, si c'est vraiment une promesse, mon engagement à titre d'auteur de la promesse. Je vous promets que, etc. Je m'engage dans la promesse que je profère devant vous. Engage donc de votre croyance, en équivalent, si vous voulez, de votre croyance, il y a mon engagement à titre d'auteur de la promesse. Il y a la sincérité que je déclare être mienne au moment où, en effet, je prononce ma promesse. En contrepartie, il y a le discrédit qui me touchera s'il devait s'avérer par la suite que je ne m'étais pas réellement engagé ou que je n'étais pas sincère. Donc là, je ne sais pas comment dire, la dynamique ou la logique d'une promesse, c'est que du côté de celui qui l'énonce, il y a de la sincérité, et le fait de prendre une sorte de risque, c'est d'être atteint par un discrédit s'il s'avérait par la suite qu'au moment de la promesse, celui-là n'était pas sincère. Toute promesse est par conséquent a priori sanctionnable, et c'est bien de cette manière que la comprennent les anthropologues, les historiens ou les juristes. Mais pas le linguiste ni le théoricien du marketing. Car le linguiste et le théoricien du marketing ne semblent pas s'intéresser, en l'occurrence au moins, à la sanctionnabilité et à l'imputabilité de la phrase dont il serait par hypothèse question. Non, ils évoquent seulement, au lieu de sanctionnabilité et imputabilité qui permettent éventuellement de porter discrédit a posteriori, ils évoquent seulement, à la place de ces deux notions, la promesse est un énoncé sanctionnable et imputable. Ou plutôt, il faudrait qu'ils se disent dans l'autre sens. C'est un énoncé imputable et par conséquent sanctionnable. Imputable à quelqu'un dont on attend qu'il s'engage sincèrement dans son énoncé, et par conséquent, puisque c'est imputable, c'est sanctionnable. Un énoncé acceptable, une manœuvre, une manipulation dans le champ de l'acceptabilité, évoque seulement, justement, l'acceptabilité, évacue le caractère de sanction possible, le discrédit possible. Les termes sanctionnabilité et imputabilité d'un côté, acceptabilité de l'autre, ne considèrent pas de la même manière le rapport à la responsabilité. Si je suis sanctionnable, c'est parce que je peux répondre de ce que j'ai dit. Oui, j'ai bien dit, je promets, etc. Et oui, je reconnais que je n'étais pas sincère, hein, que j'ai par conséquent été un sale menteur, voilà, au moment où je promettais. Voilà. Mais dans les logiques de l'acceptabilité, il n'y a pas ça. Et par conséquent, la profération d'un énoncé que j'appelle donc pervers dégage l'auteur, si c'en est un, mais j'en ai plus un, justement, de l'énoncé de la responsabilité, parce que cet auteur, d'une certaine manière, est absent en tant que tel. Il se dégage de l'imputabilité et par conséquent, il n'est pas sanctionnable. Est-ce que je suis à peu près clair? Voilà. Est-ce que vous voulez, avant que je passe à la suite, je suis à la moitié, puisque je vais entamer mon troisième point, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez envie qu'on discute un petit peu de ce que je viens d'essayer de vous dire à peu près, avec la conscience d'être éventuellement un peu abstrait? Alors, oui, vous voulez qu'on discute un peu? Oui, il y a une question. Que ça veut dire imputable? Ah, je ne m'attendais pas à ça. Quelqu'un peut m'aider? Oui, exactement. Ça vous va comme réponse? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors je continue. D'accord. Alors, c'est comme pour le passage du point 2 au point 3. Je mets un peu de côté ce qui vient d'être dit et apparemment je passe à autre chose et je voudrais vous parler de l'hospitalité de la langue. La notion d'acceptabilité revient en dernière analyse à juger insuffisant les deux modes du geste linguistique que je résumerai dans la formule suivante. Quand on parle de quelque chose et où on parle à quelqu'un. Non, attendez, il y a un problème, j'ai un problème avec l'écran là qui me cache une partie de mon texte, ce qui est bien embêtant. Et je ne sais pas comment retrouver. Oui, ça fait rien, je vais faire autrement. La notion d'acceptabilité revient en dernière analyse à juger insuffisant la phrase suivante, enfin inconvenante pour ceux qui soutiennent la notion d'acceptabilité. La phrase que je vais dire maintenant est inconvenante, elle n'importe pas pour eux. Quand on parle de quelque chose et où on parle à quelqu'un. Ou je peux dire les choses autrement. La position en dernière analyse morale que je soutiens dans tout ce raisonnement, qui n'est pas la position soutenue par les théoriciens du marketing, c'est que quand on parle toujours de quelque chose et où on parle à quelqu'un. Il y a toute une manipulation du langage qui est perverse, qui consiste au fond à effacer le référent, l'importance du référent, c'est-à-dire l'adéquation du discours. Donc on ne parle plus de quelque chose, ou alors on parle vaguement de quelque chose, si bien qu'au fond on parle de rien de précis. Par exemple, quand on dit « donner », on parle vaguement de quelque chose, puisque précisément, ce ne sont pas des données. Et où on efface le fait qu'il n'y a de parole. Comment dire? Tant pis pour l'expression ringarde, apparemment, que je vais utiliser, socialement morale, que si on parle toujours à quelqu'un. À quelqu'un qui soit quelqu'un de particulier, par exemple, devant qui on s'engage dans une promesse. La promesse est toujours quelque chose que, enfin, si c'est une promesse, si c'est vraiment une promesse, c'est une promesse dans laquelle je m'engage devant quelqu'un. Je l'adresse toujours à quelqu'un, la promesse. Mais donc il y a des énoncés ou des situations d'énonciation désormais dans lesquelles finalement s'efface, s'estompe le fait qu'on parle de quelque chose et ou à quelqu'un. Chacun des modes du langage renvoie à des conditions de validation ou de correction qui requièrent une opération du côté des destinataires, celle de vérifier dans le premier cas, celle de pouvoir imputer, pour le cas échéant sanctionner, dans le second cas. Ça, c'est le fonctionnement, si vous voulez, moral du langage. En fait, je crois que le mot « imputabilité » va désormais suffire à mon analyse. Car pour autant que quand on parle de quelque chose et ou à quelqu'un, alors le dit, est imputable lui-même à quelque chose à quoi il sera dit convenir et ou à quelqu'un qui acquiescera ou non. Avec l'acceptabilité, tout se passe comme si, ce que je viens de vous dire un peu difficilement, tout se passe comme si cette imputabilité, c'est-à-dire le fait qu'on parle de quelque chose, qu'on peut imputer le discours à une chose dont on pourrait vérifier que le discours dit, en effet, la chose est bien comme le discours dit qu'elle est, ou bien le discours est imputable à une situation dans laquelle quelqu'un s'engage par rapport à quelqu'un d'autre, donc il y a imputabilité dans les deux cas, c'est le fonctionnement que j'appelle moral, social-moral du langage, mais dans l'acceptabilité, avec le concept d'acceptabilité, tout se passe comme si l'imputabilité du langage n'avait plus de raison d'être. À quoi bon, dès lors, des récepteurs ? Que sont-ils supposés faire ? Quand vous êtes le destinataire d'un énoncé que j'appelle pervers, qui a travaillé non pas à dire vrai de quelque chose ou à s'engager personnellement devant vous, à quoi bon ? Qui êtes-vous ? Vous êtes des destinataires, mais qu'êtes-vous supposé faire ? Vous êtes supposé accepter, très probablement, c'est-à-dire confirmer l'acceptabilité du discours qui vous est adressé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire accepter ? En fait, pour être plus clair, je pense que le mot « donner » ne correspond pas à la situation qui est celle technique, au fond, de ce que j'appelais tout à l'heure le terminal mobile ou le smartphone. Mais on m'adresse ce mot, et en fait, je l'accepte, puisque moi-même, je vais le répéter dans telle ou telle situation de communication, comme si ce mot disait vrai. Je le répète moi-même, je l'assume moi-même, je l'accepte. Donc la situation, le propos qui a été travaillé dans une zone d'acceptabilité a priori, a-t-on, de moi qui suis le destinataire par hypothèse, que j'accepte en effet son opération. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement accepter ? Alors, il y a un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell qui a commenté un mot important chez Kant, qui est celui de réceptivité, récepteur, réceptivité. Et Cavell faisait remarquer, je ne sais plus où, que combien il ne faut pas confondre le mot de réceptivité avec celui de passivité. Un récepteur passif serait, par hypothèse, soit comme un appareil de pure et simple transmission indifférent à l'imputation. On m'a dit que c'était des données, je le répète. Je suis un récepteur passif, et donc, en fait, je ne suis pas vraiment un récepteur au sens que je vais essayer de vous préciser. Soit il serait, celui-là, hypothèse out, une sorte d'hôte radical au sens de Derrida parlant de l'hospitalité sans condition, c'est-à-dire quelqu'un qui est en situation de tout accepter. En réalité, ce qui est d'abord hospitalier, ce ne sont pas les récepteurs, les destinataires, c'est la langue, encore une fois, et c'est cette habitabilité de la langue que doit considérer pour commencer quiconque voudrait traiter méthodiquement du sujet sur lequel j'essaye de vous faire réfléchir. Un auditeur, un récepteur, un destinataire éprouve l'hospitalité de la langue quand il entend que ce qui lui est dit est grammaticalement correct et fait sens. Mais cette entente, n'est en elle-même, à soi seule, ni vérification, ni sanction. Que j'entende ce qu'on me dit, ou plutôt que j'entende qu'il s'entend quelque chose dans ce qu'on me dit, ne suffit pas à faire de se dire une vérité. Le locuteur émetteur, de son côté, peut profiter de l'hospitalité de la langue pour se placer très exactement hors de portée de la vérification ou de la sanction. Alors voici enfin deux exemples qui bénéficient d'une acceptabilité linguistique et qui ne sont pas vérifiables. Alors ce sont des exemples que j'emprunte à une actualité politique qui n'est plus tout à fait actuelle, puisqu'elle date, de campagnes électorales qui ont une bonne quinzaine d'années derrière elles. Mais peut-être, bien que vous soyez très jeune, en tout cas pour moi, savez-vous qu'il y a eu un fameux mot d'ordre lancé par un fameux président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, dont le slogan de campagne était « Yes, we can ». Ça vous dit quelque chose? Voilà. « Yes, we can ». Donc ça, c'est un énoncé pervers, quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir par ailleurs pour le président des États-Unis qui s'appelait Barack Obama. L'énoncé « Yes, we can », je voudrais vous montrer que c'est un énoncé pervers. Et il y avait une sorte de répondant français du côté de l'ex-président Sarkozy, dont le mot d'ordre de campagne était « Ensemble, tout est possible ». Donc vous voyez, je choisis un exemple à gauche, un exemple à droite. Donc le problème n'est pas les engagements politiques, le problème est la manière d'engager quelque chose et d'être. Alors, est-ce que c'est une promesse? Par exemple, est-ce que, voilà, je peux m'arrêter deux secondes de parler tout seul et vous laisser réfléchir ou même discuter un peu. Est-ce que c'est une promesse, ça? Yes, we can, ou bien ensemble, tout est possible. Est-ce que ceux qui vous disent ça vous promettent, sont en train de vous promettre quelque chose? Ambiance. Je pense... Oui. C'est, vous avez dit... J'ai pas bien entendu, mais pas exactement vous avez dit.
Il joue sur l'ambiguïté de... On peut interpréter ça comme une promesse, mais en soi, il ne formule pas comme une promesse. Il ne dit pas « On peut vous promettre ensemble que tout est possible. » Mais ils savent qu'on peut le recevoir comme tel.
Ça se donne un peu comme une promesse. Ça peut s'entendre comme une promesse, et je pense que ça a été entendu comme une promesse, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Hein, ça a été accepté, autrement dit, ça a été accepté comme tel, bien que ça n'en soit en réalité pas une. Pourquoi? Mais parce qu'il manque un complément d'objet. C'est des phrases incomplètes. Je ne sais pas si c'est des demi-vérités, mais en tout cas, c'est des phrases incomplètes. C'est-à-dire que ça ne parle de rien. Yes, we can, quoi? What about? Et ensemble, tout est possible. Quoi? Moi, je pourrais, qui ai mauvais esprit, hein, je pourrais même entendre que ensemble, tout est possible, même le pire. Il est bien entendu que pour que la phrase circule et soit acceptée, l'interprétation que je viens de donner, elle doit être exclue. Donc la phrase apparaît comme une promesse et n'en est en réalité pas une. C'est un énoncé pervers. Voilà. Je pense que peut-être avec ces exemples-là... mon propos abstrait d'il y a quelques minutes est peut-être devenu plus clair. Ces énoncés sont assurément acceptables du point de vue linguistique. Donc, ils profitent de l'hospitalité de la langue, qui accepte ça, la langue. C'est tout à fait linguistiquement correct, ces deux énoncés. Ils sont donc acceptables du point de vue linguistique, et pourtant, ils sont faits de phrases en quelque manière suspendues, invérifiables. Il leur manque un complément d'objet. Pouvoir quoi? Cela, dans les deux cas, n'est pas dit. En conséquence, personne ne saura démentir le dit de ce discours, lequel échappe même, du coup, au registre de la promesse. Ce n'est pas sanctionnable. Cette sorte de dit pourra se balader dans nos esprits sans que nous l'interprétions réellement. Alors ça, c'est une de mes obsessions, mes marottes. les signifiants baladeurs. Je pense que nous sommes dans un monde... Alors, les signifiants baladeurs, si on est seulement dans le registre psychologique, ça peut rendre fou. Par exemple, certains paranoïaques disent ça, qu'ils entendent des mots qui ne veulent rien dire pour eux, mais qui sont interprétés comme des sortes d'impératifs vides qui en fait engagent ce qu'on appelle des passages à l'acte. Voilà, les signifiants baladeurs. Eh bien, nous sommes dans un monde dans lequel se baladent beaucoup de signifiants. Ce n'est pas tout à fait rassurant, à mon avis. Et « Yes, we can » et « Ensemble, tout est possible » sont de ce genre. Il y va de signifiants qui peuvent se balader dans nos esprits sans que nous les interprétions réellement. Il y va d'un excès de signifiance affolant qui n'a rien à envier, en tout cas, à ceux où s'ancrent certaines folies, pas toutes, il en est de moins perverses, mais une sorte tout de même de folie. Alors, pour être moins dramatique et pessimiste, je voudrais terminer sur une quatrième partie que j'ai intitulée « De la parole d'auteur ». Donc sortir de cette logique du signifiant baladeur ou me placer dans un autre champ qui serait celui des auteurs qui parlent, si j'ose dire, réellement, hein, de quelque chose et à quelqu'un. Donc heureusement, tous les émetteurs de langage ne sont pas pervers ou n'envoient pas en notre direction ce que je viens d'appeler des signifiants baladeurs. J'appellerai les émetteurs qui ne sont pas de cette sorte que je viens de dire des auteurs. Un auteur, conformément à l'une des étymologies du mot, hein, le verbe latin augere, qui a une forme conjuguée qui fait auctum, d'où vient auteur, pardon, qui peut se traduire par augmenter. Un auteur, c'est quelqu'un qui augmente la langue de ce qu'il dit, tout en admettant que ce qu'il dit lui soit imputé. Je suis auteur vraiment si j'augmente la langue, c'est-à-dire si je parviens à écrire ou à dire quelque chose qui n'avait pas été écrit et dit, pas comme ça. Voilà. Donc je permets, par mon travail d'auteur à la langue, d'accoucher d'une signification nouvelle, linguistiquement correcte et cependant nouvelle, et en même temps, je signe mon propos, c'est-à-dire j'accepte qu'il me soit imputé. L'auteur ne se sert pas de l'hospitalité de la langue, il respecte l'hospitalité de la langue, il a pour elle de la considération. Est-ce que cette façon d'être langagier, ça n'est pas celle des écrivains ? Il semble bien, je suis en tout cas ici, sans en reprendre exactement le lexique, une analyse de Merleau-Ponty que je cite extrêmement souvent, il semble bien que toute œuvre littéraire repose à son tour sur l'acceptabilité linguistique. Mais dans son travail, l'écrivain mène cette qualité de la langue à un éclat incomparable. Comme disait Merleau-Ponty, il appareille la langue d'une parole qu'elle ne connaissait pas. Et cette opération, assurément, il la mène lui aussi dans l'acceptable de cette langue qu'il écrit et ou fait parler. Ce que je veux faire tout particulièrement remarquer à votre intention, c'est qu'alors, en faisant ça, en travaillant comme il travaille, l'auteur ne regarde pas du côté du récepteur ou des destinataires, à la différence de celui qui veut faire passer quelque chose, le rendre accepté par tel ou tel destinataire. Autrement dit, ce que je veux... Enfin, c'est une proposition de discussion, en réalité. C'est dire qu'un auteur est quelqu'un qui ne se demande pas d'abord, qui parle en fait, qui va finalement adresser son message à quelqu'un, son discours à quelqu'un, mais qui ne se demande pas d'abord... quel effet il va produire sur un public, qui ne cherche pas d'abord à savoir ce qu'il en est de l'acceptabilité de son propos, bien que lui-même travaille dans l'hospitalité de la langue, c'est-à-dire dans le fait que la langue accepte a priori de nouveaux énoncés. Voilà. Celui qui travaille dans le marketing, c'est pas du tout comme ça qu'il est. C'est-à-dire qu'il profite de l'hospitalité de la langue, de l'acceptabilité linguistique, en ayant toujours en vue le destinataire auquel il veut faire croire quelque chose. Donc on ne regarde pas, quand on est auteur ou quand on est manipulateur de langue, on ne regarde pas du même côté a priori. C'est ça le fameux regard intérieur sur lequel je vais conclure dans maintenant quelques secondes. Donc ce que je voudrais vous faire tout particulièrement remarquer à l'instant, c'est que donc l'auteur, l'écrivain, ne regarde pas du côté du récepteur ou du destinataire. Il ne se demande pas ce que le récepteur ou le destinataire pourra entendre, mais il se demande bel et bien ce que lui peut dire dans une langue qui a des limites au moins grammaticales. Entre l'auteur, l'écrivain et l'émetteur de signifiants baladeurs dont je parlais il y a quelques minutes, il y va d'une différence d'attitude. Il y va d'une différence d'attitude ou de portée ou de direction d'un regard intérieur. Dans un cas, celui de l'auteur, il s'agit de travailler avec une matrice, la matrice de la langue. Dans l'autre cas, il s'agit de manier un destinataire. Donc le regard, la tournure d'esprit, la portée, la direction n'est pas la même. Je répète, dans un cas, il s'agit de travailler avec une matrice, la matrice de la langue, qui est riche d'énoncés inédits encore possibles. Dans l'autre cas, il ne s'agit pas de travailler avec la matrice de la langue, il s'agit de profiter du caractère matriciel de la langue pour en réalité manier un destinataire. On peut dire dans l'autre sens, l'attitude de principe d'un auteur, la façon dont un auteur regarde la langue, fait que son travail ne consiste pas à manier un destinataire. Alors il me semble possible de généraliser. La qualité de ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de messages, où je reviens à mon introduction, qu'il s'agisse d'objets, la qualité de ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de messages ou qu'il s'agisse d'objets, dépend de la tournure de ce que je viens d'appeler regard intérieur. Peut-être je pourrais, alors je prends des précautions avec le mot que je vais dire, parce qu'il est tellement manié aujourd'hui qu'il finit par ne plus signifier ce qu'il devrait signifier. Je dirais éthique. Voilà. Éthique, moi j'ai fait du grec beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune, et je n'oublie pas complètement. Et je crois que l'une des toutes premières significations du mot éthos dans la vieille langue grecque, c'est pas moral. C'est quelque chose qui est le repère, P-A-I-R-E. Par exemple, l'éthos, ça existe d'ailleurs, c'est la science, l'éthologie, hein, c'est-à-dire la science des habitats animaux. Hein, là où un vivant est dans son repère, P-A-I-R-E, c'est-à-dire je fais ce geste. Avec soi-même, voilà, ça c'est éthique. Donc, contrairement à ce qu'on croit, l'éthique et la morale, c'est pas la même chose. La morale, ça concerne le rapport aux autres, l'éthique, ça concerne le rapport à soi. Et ben, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, enfin, en tout cas, c'est ma proposition, c'est de dire au fond que la qualité de ce qui nous arrive, par conséquent la qualité du monde dans lequel nous vivons, dépend au fond de quelque chose qui est d'ordre éthique, que j'ai appelé il y a quelques minutes un regard intérieur, une tournure d'esprit, a priori, hein, suivant que vous entendez travailler avec des matrices ou manier des destinataires. Voilà. Et ça, qui peut maîtriser l'attitude en question, sinon la personne elle-même qui engage telle ou telle attitude? Donc je conclue, je répète ma phrase, la qualité de ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de messages ou qu'il s'agisse d'objets, dépend de la tournure de ce que j'appelle donc regard intérieur. Si nous avons affaire aujourd'hui à des objets pervers, c'est en tant que et aussi bien parce que, dans leur design même, dans leur dessin EIN, dans leur dessin IN, dans leur conception et dans leur facture, ils ont été envisagés, intérieurement regardés, comme non imputables. Vous voulez que je répète ça ? C'est quasiment la dernière phrase. Si nous avons affaire aujourd'hui à des objets pervers, au sens que j'ai défini à peu près, j'espère, dans mon introduction, c'est en tant que ces objets ont été envisagés, intérieurement regardés, comme non imputables. C'est-à-dire que ceux qui les ont faits de telle sorte qu'ils ne puissent pas leur être imputés. En suspens dans cette affaire, est suspendu dans cette affaire, et dans une certaine mesure, c'est notre problème. Alors pas seulement le problème des designers, mais le problème de tous ceux à qui le design contemporain s'adresse, les objets contemporains s'adressent, en suspens dans cette affaire de position intérieure qui échappe, qui se dispose a priori à échapper à l'imputabilité. Le problème de cette affaire, c'est que, évidemment, ça suspend la responsabilité du monde. Si vous ne pouvez pas imputer à un auteur, il n'y a plus de responsabilité possible. Et c'est quand même, je crois, un problème. Voilà. Je vous remercie pour votre patience.
Merci beaucoup, parce que c'était très intéressant. Je me posais la question, justement, puisque plusieurs ici, on est justement en master de design et stratégie de communication. Donc je dirais qu'on est dans peut-être la version la plus extrême de ce que vous présentez ici. Mais même au sein d'Estienne, finalement, on va tous, à un moment donné, où on est amené à faire de la communication, ou en tout cas, on va être les porte-parole de quelqu'un d'autre. Je pense que le glissement est facile vers cette perversion, cette création d'énoncés pervers ou d'objets visuels pervers. Et du coup, la question, c'est comment nous, en tant que futurs designers ou futurs communicants, c'est... Comment avoir cette attitude d'auteur? Comment justement pouvoir ne pas tomber dans cette perversion et réussir à proposer quelque chose qui ne soit pas des énoncés pervers ou une communication qui est perverse, tout en faisant passer le message qu'on nous demande de faire passer ou qu'on a envie de faire passer?
C'est sûr que c'est difficile. je pense que... En fait, je pense que, comment dire, chacun sait bien s'il est sincère ou pas. Les autres ne peuvent pas savoir, mais vous, vous savez. Donc, débrouillez-vous avec ça, déjà dans un premier temps. Voilà. Il n'est pas possible qu'il y ait, ça serait même contradictoire, une règle méthodique de la sincérité. Ça me semble absolument impensable. Voilà. Donc, vous serez le seul à savoir si vous êtes sincère ou pas. Les autres pourront le croire, les autres pourront l'espérer, mais alors peut-être l'histoire, votre histoire, leur fera découvrir un jour que oui, vous êtes quelqu'un de parole, sincère, vous tenez vos promesses, etc., on peut vous croire, ou bien au contraire que vous n'êtes pas fiable. Et donc, je n'ai pas de réponse méthodique à votre question. En revanche, ce que je peux peut-être dire, alors ça décale par rapport à mon exposé, mais pas par rapport, je crois, à votre question, c'est que... Alors, j'ai beaucoup travaillé... Ces derniers temps, tout particulièrement, j'ai enfin lu je plaisante, j'avais lu il y a longtemps, mais bon, je me suis mis à travailler ça et en faire un objet de conférence, d'articles, de chapitres, etc. Le texte de Louis Sullivan dans lequel paraît la fameuse phrase « Form ever follows function » qui n'est pas forcément la plus intéressante de l'article. Ou plutôt, il faut lire l'article, pas très long, le petit texte, pour comprendre ce qu'il voulait dire exactement quand il a lâché cette trop fameuse formule qui fait que du coup, on ne le lit pas et par conséquent, on ne comprend pas. On interprète cette phrase, mais pas, à mon avis, pas comme il convient. Bon, si on fait ce travail-là, on s'apercevra que pour commenter au fond le mot forme dans l'affaire, Louis Sullivan, à un moment donné, dit qu'il y a quatre niveaux pour définir ce que c'est qu'une architecture ou, dans le texte américain, design. Et la véritable architecture ou le véritable design commence seulement au troisième des quatre niveaux. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux où c'est de l'architecture qui n'est pas encore de l'architecture ou du design qui n'est pas encore du design. Quels sont ces deux niveaux? Ce sont les deux niveaux dans lesquels l'architecte qui a été demandé, ou le designer qui a été demandé, auquel on a commandité quelque chose, s'est tenu à la littérale satisfaction de la demande. C'est une citation. La littérale satisfaction de la demande. Et il dit, c'est tout le sens du verbe follows, à partir de là, dans la phrase de form ever follows function, il dit que la véritable architecture commence quand on dépasse la satisfaction littérale. Il y a un supplément. Alors, c'est pas qu'on ne satisfait pas. C'est tout l'art. C'est tout l'art. Il n'y a pas de méthode pour ça. Mais quand il y a architecture ou vraiment design, véritable architecture ou véritable design, c'est de fait que la satisfaction littérale a été dépassée. Alors, je pourrais répondre en disant, poursuivre plutôt en disant que ça veut dire que l'architecte véritable ou le designer véritable, au sens de Sullivan, est quelqu'un, ça c'est ma formule maintenant hein, quand je parle de ça, est capable d'entendre dans une demande ce qu'elle ne s'entend pas elle-même demander. Et il répond aussi à ce que la demande n'entend pas qu'elle demande. Voilà. Et peut-être vous pourriez en faire, au fond, presque une sorte de critère, en l'occurrence moral, plutôt qu'éthique, de vos choix professionnels, pour autant que vous en ayez la latitude. Ça serait de dire que si vous ne pouvez pas entendre dans la demande quelque chose qu'elle ne s'entend pas demander, alors vous ne faites pas le boulot. Parce que sinon, vous ne ferez qu'être un designer discipliné. Et entretenant un monde dans lequel, peut-être, en tant qu'humain, vous ne retrouvez pas vos billes.
Peut-être avant une autre question d'étudiant, je me posais une question entre les signifiants baladeurs, donc pervers, si je vous ai bien suivi, et puis ce qui est attribuable à un auteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une troisième catégorie, c'est-à-dire que celle qui serait plutôt d'auteur collectif, auquel on pourrait justement, qui pourrait se revendiquer comme porteur d'un sens, mais auquel on ne pourrait pas assigner un nom propre, et qui serait justement des auteurs collectifs éventuellement animés de sincérité, qui se trouvent parfois d'ailleurs avoir eu recours même aux nouvelles technologies pour se repérer. Je pense à des hashtags fameux ou à des qui se sont repérés, qu'on trouvait comme repères éventuellement les nouvelles technologies ou des lieux qui étaient des lieux collectifs comme les places, si on pense à des mouvements comme Nuit Debout, voire les carrefours, les gilets jaunes, etc. Enfin, disons, est-ce que entre justement ces types de ces formes de dire, entre disons celui qui serait celui de l'individu auteur auquel on attribuerait donc la sincérité d'un dire, et puis du signifiant baladeur, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une troisième catégorie qui serait celle justement d'un collectif non pervers pour le coup, et mais auquel on ne pourrait pas assigner une identité justement aussi facilement identifiable que celle d'un auteur? Est-ce que cette troisième voie vous semble envisageable dans le dans la construction, la belle construction que vous avez proposée. Bonjour, merci d'ailleurs.
Ben, les conférences, ça sert à ça, c'est avoir affaire à des questions qu'on n'attendait pas. Hein. Et donc, du coup, ça relance, si j'ose dire, la machine à penser. Là, tout de suite, je suis embarrassé pour répondre à dire vrai. Bon, probablement, je ne suis pas linguiste, en réalité. Alors, il est très probable que si j'étais linguiste, je vous répondrais que, bien sûr, vous avez raison, et il y a forcément des types d'énoncés qui sont pas dans la simplification que j'ai produite pour arriver à faire réfléchir à quelque chose. Je pense quand même, en vous entendant, peut-être à deux choses. La première, c'est que quand vous avez prononcé le mot de collectif, d'énoncé qui serait pas imputable à un auteur, mais à un collectif, j'ai pensé au cinéma. C'est-à-dire au fait que il n'y a pas de film qui ne soit qui n'implique la coordination de plusieurs travailleurs plus ou moins engagés dans la signature ou dans la signature réputée du film, etc. Mais de toute façon, ça se fait pas tout seul. Voilà. Or, je pense qu'on peut tenir pour le cinéma en tant qu'opération collective, en tant qu'opération à plusieurs. Exactement la même thèse que... C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont sincères et il y a des films qui sont pervers, mensongers, etc. Donc, dans ce cas-là, ma réponse est oui. On peut étendre à des collectifs, la dualité de position que je viens d'évoquer. Après, si on est la deuxième chose, c'est que quand même, à l'heure qu'il est, dans l'état où je suis... J'ai du mal à imaginer qu'un énoncé qui ne serait pas signé, alors ce n'est pas forcément par un nom singulier, ça peut être signé par un collectif, mais quand même, un énoncé qui ne serait pas signé, donc pas imputable, je ne sais pas comment dire ça, je crois que je m'en méfierais. Voilà. C'est probablement possible. Et y a beaucoup de choses qui semblent différentes. Autrement dit, ça serait le... Mettez ça sur mon compte, hein, je n'engage que moi. Plus ça va, plus je crois que j'ai une certaine distance à l'égard de ce que je pourrais appeler les slogans. Voilà. Alors, y en a qui semblent problématiques et d'autres qui semblent, parce qu'ils sont sur des thématiques ou des perspectives plus ou moins idéologiques qui nous conviennent et qui nous semblent bénéfiques, mais en réalité, c'est quand même dans les deux cas des slogans. Et donc, l'énoncé sans signature... Et aujourd'hui, un énoncé pour lequel j'ai beaucoup de réserves désormais. Je ne sais pas si ça répond. Il y a des similitudes. Alors, c'est pas ce que vous dites, mais c'est à quoi ça me fait penser. Mais j'avais mis une petite allusion dans un de mes livres là-dessus. Quelle est la différence entre un logo dans un centre commercial, enfin les trucs qui s'affichent, ou même, je ne sais pas, moi, le logo Auchan sur lequel j'avais fait quelques pages, ou je ne sais plus quel autre, et puis un graffiti qui est apparemment sauvage, enfin, dont par exemple telle ou telle rame de métro va se trouver gratifiée. Alors, il y en a un qui a l'air d'être parfaitement dans le monde économique, dominant, etc. Et puis l'autre qui a l'air d'être contestataire. En réalité, est-ce que ce n'est pas les mêmes pratiques de colonisation visuelle, voilà, qui ne se passent pas exactement au même endroit, mais qui sont en fait, au fond, dans la même logique. Donc, j'ai des réserves à l'égard de ça. Oui.
Est-ce que vous placer un peu dans la lignée de Wittgenstein, vous pensez que la philosophie, son but, c'est un peu de clarifier justement tous ces mots qui sont des doubles sens, et comme il le dit, qui sont les problèmes de base de la philosophie, en fait. Ou est-ce que vous pensez que c'est nécessaire quand même de garder cette, le fait que cette habitabilité de la langue, le fait que les mots puissent justement accueillir plusieurs sens, enfin, comment fonctionner par rapport à ça?
Alors, je pense que il y a une partie de mon exposé, je ne suis pas tout à fait content de moi, parce que je pense que ce n'était pas clair. Enfin, de toute façon, c'était compliqué. Mais en plus, l'énonciateur n'est pas clair, là, ça devient terrible, quoi. Bon. Enfin, bref. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé, que je n'ai pas bien fait passer, qui est la distinction entre... est-ce que vous venez de reprendre l'expression, le double sens et la duplicité. Ce qui me fait problème, c'est la duplicité, pas le double sens. C'est-à-dire qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait de l'ironie, qu'il y ait des jeux de mots. Et même, au-delà de ça, le fait que je peux encore écrire une vieille langue comme la langue française aujourd'hui, qu'il y ait des auteurs aujourd'hui qui écrivent le français comme on l'a jamais écrit. Alors, il y en a plein qui écrivent le français d'une façon tout à fait banale. Ceux-là ne sont pas des auteurs, ne m'intéressent pas beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont des auteurs, c'est-à-dire qui font entendre la langue comme on l'a jamais entendue. Or, encore une fois, c'est tout le paradoxe sur lequel réfléchissait Merleau-Ponty. Hein. Encore une fois, ça n'est possible qu'avec une langue qui est déjà là, qui est déjà parlée, et qui doit être en même temps la langue de l'autre auquel finalement le texte, l'écrit va parvenir. Donc c'est une chose assez bizarre, mais donc qui est du jeu dans la langue. Et que par conséquent, il n'y ait pas de mots qui soient univoques. C'est pas un problème, c'est même au contraire ce qui permet à la langue d'être vive et que émergent des expressions vives de cette langue. Mais autre chose est la duplicité. Et je ne vois pas comment analyser la duplicité sans faire intervenir des éléments de caractère moraux d'un côté, éthique de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Tu avais évoqué de nous lire quelques relations amoureuses, d'échanges amoureux, et on les a pas entendus.
Non, mais c'est pas l'échange amoureux, c'est stupide de ma part d'avoir parlé comme ça. Non, j'évoquais des situations de genre théâtre de boulevard, c'est-à-dire... c'est un des meilleurs exemples que j'ai pour parler de la demi-vérité, hein, dont il est impossible de démontrer la fausseté. Voilà. Donc, ce sont deux amants, lui et elle. Et elle est mariée. Et donc, elle n'est pas libre, comme on dit couramment. Et elle lui promet, ça fait longtemps que ça dure, que bientôt elle est libre, qu'il n'y a pas de problème. Et lui, quand même, il trouve le temps long, il se fatigue un petit peu dans cette situation. Et finalement, il décide que... c'est une histoire sans avenir qu'il faut rompre. Voilà. Et il s'apprête à rompre et elle le sent. Et alors elle lui dit... alors elle habite... on va dire qu'elle habite rue X. Non, c'est pas bien X dans les circonstances. Rue Z. Elle habite rue Z. Et donc, au moment où il s'apprête à lui dire « c'est fini, cette histoire est sans avenir pour moi », etc., elle lui dit « mais mon mari vient de quitter la rue Z ». Et là, lui, il se dit « bah, ça y est, on va pouvoir enfin vivre notre histoire tous les deux », etc. Et elle ne le dément pas. Voilà. Et elle lui dit juste « il faut que tu me donnes quand même une bonne quinzaine de jours pour que je m'y retrouve dans la vie. » Bon, très bien. Il lui donne la quinzaine de jours, il se retrouve. Et là, elle lui dit « Ah, j'ai oublié de te dire, il y a 15 jours, mon mari... je quitte aussi la rue Z et je suis mon mari dans son nouvel appartement. » Donc, pendant 15 jours, l'énoncé « Mon mari a quitté la rue Z » est vrai, absolument vrai. Mais comme il manque la fin, ça change tout le sens de la phrase. Et vous voyez, pour revenir à des choses moins grivoises, enfin encore que c'est pas grivoise, c'est juste la vie, il manque quelque chose à l'énoncé. Et c'est la même chose dans Yes We Can et dans Ensemble Tout est Possible. L'énoncé est incomplet, il est partiellement vrai. Et on peut pas dire qu'il est faux. Et cependant, le fait qu'il soit d'une certaine manière incomplet retourne complètement sa valeur au fond morale, hein, puisque finalement, dans un cas, il trompe, et dans l'autre, il ne tromperait pas.
C'est une demande de clarification. Au début, vous avez parlé de Kant et justement de cette question du mensonge. Et du coup, selon vous, les énoncés pervers sont plus nocifs que les mensonges encore. Et surtout, enfin, la question, c'était est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des bons mensonges au sens justement kantien du terme, là où il n'y a pas de bons énoncés pervers?
Alors, bon, on ne va pas faire un débat sur Kant, mais justement, ce que Kant vous répondrait, ça j'en suis sûr qu'il vous répondrait ça, s'il n'y a pas de bons mensonges. Il soutient radicalement ça, alors c'est très difficile à soutenir, mais enfin, c'est ce qu'il soutient. Il n'y a pas de bons mensonges, jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas de circonstances, même à la limite, on pourrait dire, en extrapolant à peine le texte, même sous la torture, donc c'est très compliqué. C'est pas sûr que Kant ait raison, hein, je ne dis pas ça, mais enfin, c'est sa position. C'est très clair. Il ne peut pas y avoir de bons mensonges, c'est pour lui inconcevable. Après, par rapport à ce que vous dites, qui m'échappe à l'instant, la façon dont vous l'avez dit, vous voulez...
C'était si les énoncés pervers étaient plus nocifs
que oui, c'est ça.
Les mensonges. Oui. Si, là où il n'y avait pas de bons énoncés pervers, justement, est-ce qu'il y a des bons mensonges, selon vous? Parce que je me dis bien que selon Kant...
Alors, c'est pareil, je ne suis pas sûr d'avoir été tout à fait clair, mais disons... Si j'ai dit en commençant, c'est pire, ce que je voudrais faire entendre par énoncé pervers, c'est pire que le mensonge, c'est parce qu'au fond, j'ai peut-être pas complètement raison, mais il me semble que quand même, le mensonge est imputable. C'est-à-dire, il y a bien quelqu'un qui a dit, et pour qui ou par rapport à qui, on peut un jour ou l'autre, comme pour la promesse pas tenue, vérifier. Voilà. Le mensonge est toujours susceptible d'être trahi en tant que mensonge, c'est-à-dire démenti. Voilà. L'énoncé pervers, ça serait un énoncé qui ne peut pas être démenti. Voilà. Yes, we can, je ne vois pas comment on peut démentir ça. Le oui, il n'y a rien de précis là-dedans. Oui, qui est-ce? Voilà. Can, quoi? Alors je choisis cet énoncé d'autant plus, encore une fois, qu'il a été prononcé par quelqu'un réputé sympathique. Hein. Et c'est peut-être d'autant plus pervers.
Oui, mais on connaît l'auteur.
Oui, on connaît l'auteur, oui.
Ça change tout. Oui, on connaît l'auteur, il y a l'œuvre, donc on
oui,
peut
tu as raison, tu as raison.
Avec d'autres textes.
Oui, on connaît l'auteur, sauf qu'en l'occurrence, l'auteur est... Alors, d'abord il n'est peut-être pas auteur en tant que personne. Hein, il n'est peut-être pas personnellement responsable. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas l'incriminer en tant que personne. Mais en plus, il postule à une fonction dans laquelle l'impunité est de droit. Donc, l'imputabilité... On ne peut pas... enfin bon, je m'arrête là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions?
J'ai besoin que tu m'aides pour enlever le fichier. Oh, pardon, ça enregistre.